Confluence, l'émission qui porte un regard sur l'actualité politique et culturelle nationale à travers les initiatives lyonnaises.
Avec Elsa Mokran et Julie Freudenreich.
Confluence, l'édito.
Radio Brume 90.7, bonsoir. Alors ce soir c'est Confluence, alors si la rentrée était en septembre, qu'est-ce qu'il en est d'octobre ? Alors dans l'actualité, on a le passage d'un train, la sortie du dernier album de Julien Doré, il y a une pétition des étudiants qui luttent contre leurs conditions de travail dans les Crous. Mais de quoi va parler cette émission ? Confluence commence à divaguer, à faire n'importe quoi ? Pas du tout, le point commun entre tous ces éléments, c'est bien l'alimentation. Alors oui, il y a eu la semaine du goût, il y a le festival alimentaire qui débute le 15 octobre, et en fait, le passage d'un train, c'était un train de la SNCF qui organise une exposition itinérante avec une immersion autour de thèmes différents chaque année et dont le thème, là, était saveur et santé. Donc il semble que l'actualité réunit pas mal de raisons d'élaborer une émission Confluence autour de ce thème qui est l'alimentation. Après la tendance porn food, après cauchemar en cuisine et autres réjouissances télévisuelles qui ont contribué à un regain d'attention pour le contenu de nos assiettes, dans les restaurants ou à la maison, désormais, on en pince dans les médias pour les locavores, les crudivores, tous ces néologismes et autres adeptes du friganisme, mode d'alimentation qui se base sur la lutte anti-gaspillage, par exemple. Donc ça apparaît, ça développe un nouveau mode de production et de consommation alimentaire alternatif. Il semble qu'il y a une prise de conscience de ces nouveaux enjeux. Même dans les Inrocks, à l'occasion du nouvel album, les journalistes demandent à Julien Doré de s'exprimer sur son choix du régime végétarien. Preuve que finalement, ce que l'on mange, c'est bien plus que du casse-dalle. C'est des symboles et des marqueurs de nos sociétés contemporaines qui intéressent jusque les journalistes musicaux. Critique, sceptique, gourmet, notre rapport avec ce dont nous nourrissons révèle beaucoup de notre rapport à la société de façon plus générale. Par exemple, à l'occasion d'une conférence aux Archives de Lyon sur la gastronomie lyonnaise, nous avons appris que les Parisiens en vacances à Lyon trouvaient l'eau imbuvable. La concurrence entre Capitale des Gaules et Siège du Château ne date donc pas d'hier et obligeait déjà à des compromis autour de la table. S'attabler pour négocier, recevoir, l'art du bien manger était un instrument diplomatique non négligeable et l'est resté. Lors des déplacements des rois et des présidents de la République en terre lyonnaise, c'était bien la gastronomie lyonnaise qui était mise à l'honneur, accompagnée de tous les symboles lyonnais de façon plus générale. En 1926, le président Doumergue se rend à Lyon et pourra se saisir de menus confectionnés en soirée lyonnaise pour préparer son estomac à savourer la farandole de plat. L'alimentation, vous l'avez compris, est un vaste sujet qui possède bien des aspects. Nous nous concentrons ici sur le choix du consommateur de ce qu'il a dans son assiette et des motivations qu'il pousse à prendre conscience de la place qu'il occupe dans le processus de chaîne alimentaire. Même si nous savons qu'un tel sujet se prête aussi à parler de l'aspect de la production du point de vue des agriculteurs, ceux d'ailleurs à qui Catherine Deneuve rend hommage en dédiant son prix Lumière dans le cadre du festival éponyme qui a eu lieu le week-end dernier. Nous avons voulu comprendre ce qui pousse un consommateur à adapter son alimentation à sa propre éthique. C'est le cas des membres de l'association Sentience, l'association étudiante végane, qui va nous expliquer ce choix de mode d'alimentation dans l'entretien. Le point de vue du consommateur profane, pas forcément sensibilisé et curieux d'en savoir plus, c'est aussi le parti qui a été pris lors de l'exposition du train itinérant de la SNCF Saveur et Santé, où il était question de découvrir les facettes différentes de l'alimentation, plaisir de consommer ou découverte des métiers du patrimoine culinaire de l'Hexagone, ainsi que les impacts forcément sur la santé. À l'heure de la bataille des chiffres, si pour le porn food il y a beaucoup de clics, dans la vie non virtuelle, c'est le pain qui gagne la bataille et haut la main. La fameuse baguette, c'est 32 millions qui sont achetés quotidiennement dans les boulangeries françaises. Ainsi, Confluence a rencontré un boulanger qui nous parle de son métier dans le reportage à bord du train exposition. Ce regain d'intérêt reste controversé. Est-ce une bonne chose pour le patrimoine culinaire que d'être à ce point médiatisé ? Est-ce motivé par simple calcul et effet d'aubaine financière, comme l'avait souligné Libération en 2014 ? Le fait de vouloir faire de l'argent avec de l'alimentation, qui est aussi un vecteur de plaisir, et donc c'est simple, ça donne envie, les consommateurs sont prêts à débourser. Les études de marché, les gammes variables, dénaturent-elles l'art de la gastronomie française inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Confluence vous laisse écouter cette émission, essayer de comprendre finalement quels sont les aspects éthiques à s'intéresser à ce qui compose notre alimentation. Car qu'est-ce qui distingue la cuisine de la gastronomie dont nous avons parlé précédemment, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Pour Gaston de Ris et Kournonski, fin gastronome et humoriste du début du XXe siècle, ils expriment d'ailleurs la différence ainsi. La littérature gastronomique est l'œuvre et la propriété des gourmets, et de ceux qui écrivent bien. Et traduit donc aussi des enjeux de pouvoir dans notre société. et pas seulement un besoin vital ou gourmand et la façon dont nous apprécions ou non un mets. Mais il y a un rapport bien plus complexe au monde et à notre façon de le concevoir, plutôt comme festin ou comme pique-nique.
Confluence, l'entretien.
Radio Brume 90.7, il est 18h30 et vous êtes toujours sur Confluence. En ce mois d'octobre, on dirait que tout converge pour nous parler nourriture. Pendant que certains se demandent s'il est légitime ou pas de reprendre l'appareil à raclette lâché en février, allez, mars dernier, d'autres se demandent s'il ne faut peut-être pas abandonner cette coutume pour aller vers des recettes plus équilibrées, plus saines. La semaine dernière, à Lyon, comme partout en France, du 10 au 16 octobre, a eu lieu la Semaine du goût, qui veut faire converger enfants, amateurs et professionnels de la terre à l'assiette, dans un but d'éducation au goût, au patrimoine culinaire, mais aussi au régime alimentaire plus diététique, plus éthique. Justement, samedi dernier a débuté le Festival Alimentaire, qui est un festival international qui se poursuit jusqu'au 30 novembre, et qui, autour d'une sélection de films, engage le débat d'une agriculture et d'une alimentation durable. Dans ce cadre-là, justement, Confluence a décidé de rencontrer des membres de l'association Sentience, qui est une association étudiante née à Lyon, et qui s'est ensuite exportée dans d'autres universités françaises pour sensibiliser les étudiants à la question animale, au végétarisme, végétalisme, véganisme. Bonjour Adrienne, bonjour Mataï.
Bonjour. Bonjour.
Alors, donc, vous faites partie de l'association depuis combien de temps ?
Depuis à peu près sa création, hein, on faisait partie des premiers adhérents.
Oui, on s'est créé en 2013.
D'accord, donc vous êtes la première association Sentience qui a été créée en France, c'est bien ça ?
Oui.
Et maintenant, il y en a à Lille ?
À Rennes et à Paris.
J'ai vu aussi sur votre flyer qu'il y en a d'autres qui sont à Dublin. Donc c'est pas seulement français.
On a eu une antenne à Dublin qui aujourd'hui ne fonctionne plus. On essaye de développer constamment des nouvelles antennes. Alors il y en a qui se créent puis qui s'arrêtent. C'est un peu le propre aussi des associations étudiantes. Ça tourne et puis ça s'arrête au gré des avancements, des cursus des étudiants.
D'accord.
Oui, pareil. On en avait une à Trois-Rivières. Au Canada, et pareil, c'était le temps en fait où la personne qui a créé cette association était là, et puis après, bon, c'est le turnover étudiant, quoi.
Alors, vous avez organisé la semaine dernière une rencontre autour d'un pique-nique vegan ou végétalien. Est-ce qu'il faut que je dise lequel dois-je dire ?
Bah, végétalien, ça renvoie à l'alimentation, donc ça convient bien en l'occurrence. Après, vegan, c'est pas faux non plus, c'est juste que le véganisme recouvre d'autres formes de boycott et pas seulement alimentaire.
Est-ce que vous pourriez réexpliquer la nuance entre les deux termes ?
Oui. Oui, et bien du coup, comme Mataï vient de le dire, le végétalisme, c'est une alimentation sans produits animaux, donc c'est-à-dire sans lait, sans œufs et souvent sans miel. Et le véganisme, c'est boycotter tous les produits qui viennent de l'exploitation animale, c'est-à-dire ça peut également être pour les vêtements, tout ce qui est cuir, tout ce qui est laine, c'est concernant les os, les animaux dans les cirques en fait, c'est vraiment cette idée que les animaux ne sont pas des objets et donc ne doivent pas être exploités de quelque manière que ce soit pour notre divertissement, notre alimentation.
Ou la science aussi.
Oui.
L'expérimentation animale fait partie des situations où on méprise complètement les intérêts des animaux simplement parce qu'on les considère comme des objets à notre service.
D'accord, donc votre association, c'est effectivement pas seulement un message autour de l'alimentation, c'est quelque chose de bien plus large.
Bah, effectivement, on cherche à contester le spécisme et à insister sur la sentience de la plupart des animaux sur cette terre.
Qu'est-ce que c'est la sentience ?
La sentience, c'est la capacité qu'ont les animaux d'éprouver des sensations. La plupart des animaux ressentent des émotions, des perceptions. En fait, ce qui leur arrive leur importe. Et donc, ça a des conséquences morales. On ne peut pas les exclure de notre champ de considération morale. Voilà, c'est ça qu'on affirme. En fait, il y a des recherches en éthologie, hein, l'étude du comportement des animaux, qui ont été faites au cours des dernières décennies et qui montrent que bien des animaux sont capables d'avoir des émotions, des préférences, des désirs, une personnalité propre. Ils ont une conscience de soi, la culture, l'altruisme, enfin plein de choses qu'on pensait être réservées à l'espèce humaine et qui en fait sont bien plus répandues que ça.
Donc vous parlez des décennies dernières, est-ce que ça fait que quelques décennies qu'on s'intéresse à la conscience animale ?
Non, c'est une question qui est récurrente, en fait. Historiquement, par exemple, on voit qu'au XIXe siècle, il y avait un fort intérêt pour la question animale. Et de même qu'au XVIIIe siècle, pendant la période des Lumières, en fait. Et même Pythagore était déjà quelqu'un qui défendait le fait de ne pas consommer d'animaux. Simplement, comme on s'est retrouvé dans un contexte où les animaux sont exploités, cette pensée-là a été plus silenciée historiquement. Mais elle est fréquente, et là, ce qu'on essaye, en fait, actuellement, c'est de lui faire acquérir plus d'ampleur pour que le mouvement ne puisse pas être ignoré, finalement.
Ce qui est nouveau quand même depuis les années 70 à peu près, c'est l'approche antispéciste, le fait d'aborder la question animale sous un angle non plus de défense de la dignité de certains types d'animaux, ceux qui sont proches de nous en général, hein, les chiens, les chats, les animaux mignons, les phoques, les ours polaires. Voilà, c'est de se concentrer vraiment sur les individus sous un angle égalitariste. On considère que la discrimination arbitraire spéciste est injustifiée, et que peu importe qu'on soit mignon ou pas, quoi, ce qui compte, c'est le fait qu'on soit sentient et donc qu'on ait des intérêts à ne pas être tué, torturé, etc.
Est-ce que dans ce cas, être antispéciste, ça signifie nier le fait qu'il y ait un concept peut-être d'espèce, des instincts de préservation d'une espèce, ou pas du tout ?
Alors, il y a des auteurs qui disent que la notion d'espèce, effectivement, est critiquable, comme peut l'être la notion de race. Après, c'est sûr qu'il y a des différences biologiques et des ressemblances au sein de ce qu'on appelle les espèces. Enfin, nous, on parle bien d'espèces quand même. Enfin, c'est difficile de parler de la diversité des animaux en renonçant à ce concept, vu que c'est celui qu'on utilise tout le temps pour décrire le monde animal.
Oui, et puis il y a aussi le fait que souvent, tout ce qui est du domaine de l'instinct ou tout ce qui est du domaine de la préservation, ça renvoie à ce qu'on appelle l'idée de nature, en fait. Cette idée que finalement, il y a une nécessité, entre guillemets, naturelle, biologique, de recourir à un certain type d'alimentation, et surtout, dans le cas présent, à un certain type d'exploitation. Alors que finalement, c'est un argument qui sert à évacuer une certaine forme de réflexion éthique, parce que la nature ne peut pas être un modèle en soi. Le modèle en soi, c'est l'éthique. Et à partir du moment où l'on peut tout à fait se passer de la consommation de produits animaux, surtout dans nos sociétés occidentales, où finalement on a cette chance d'avoir une opulence alimentaire, d'avoir du choix pour la plupart d'entre nous, cette possibilité du coup de se passer de produits animaux est d'une certaine manière quelque chose qui semble être le plus juste d'un point de vue moral et éthique, sans considérer tout ce qui est du domaine de la nature, d'autant que la façon dont l'exploitation animale se fait actuellement n'a strictement rien à voir avec tout ce qui est du domaine de la préservation de l'espèce, puisque finalement ces animaux n'ont absolument aucune autre alternative ni aucune autre raison de vivre que leur exploitation et leur consommation par l'humain. Et la notion d'instinct, du coup, est une façon de légitimer a posteriori une exploitation qui n'est plus liée.
Oui, c'est typiquement humaniste, ça. Hein. Considérer que il y a d'un côté les êtres déterminés, mus par leur instinct, qui n'ont aucune liberté, qui sont du monde naturel, donc on les met avec les cailloux, les rivières, les plantes, tout ça c'est la même chose. Et puis de l'autre côté, il y aurait le monde des humains, de la liberté, de la convention, de la société, seuls les humains auraient une vie sociale. Donc c'est une division qui permet un peu rapidement de se débarrasser de la question des intérêts des animaux, et puis qui est spéciste du coup.
Paradoxalement, est-ce que c'est pas justement parce que l'homme est sorti de la chaîne alimentaire qu'il peut avoir cette réflexion éthique et qu'il peut être... Enfin, qui donne une position exceptionnelle par rapport aux autres espèces.
Oui, les animaux... On dit souvent que les humains sont les seuls à avoir l'intelligence, la capacité d'avoir un sens moral, etc. On se donne plein de critères pour essayer de se distinguer. En réalité, on se rend compte qu'on n'est pas capable de trouver un seul critère qui vraiment inclut tous les humains et exclut tous les animaux. Il y a systématiquement des contre-exemples. Vous avez plein d'animaux qui possèdent, à des degrés divers, hein, mais quand même, la raison, une intelligence, une vie sociale, une pensée abstraite, une conscience de soi. Et inversement, vous avez un certain nombre d'humains qui ne possèdent pas toutes ces capacités. Je pense notamment aux nouveau-nés, je pense aux handicapés mentaux profonds, aux gens qui sont plongés dans un coma irréversible. Voilà, et c'est pas parce que ces individus-là n'ont pas une capacité de réflexion éthique qu'on va se permettre de transformer des bébés humains en saucisses ou des handicapés lourds en matériel de laboratoire. Ça nous saute aux yeux que c'est aberrant.
Donc, est-ce que notre rapport à un être vivant doit être lié à son taux de sensibilité ? Ou rien à voir ? Ou est-ce qu'on se dit que chaque être vivant, quel que soit son degré de sensibilité, à partir du moment qu'il y en ait un, ça suffit pour avoir un unique rapport unilatéral ?
C'est quelque chose qui est encore... qui est encore discuté hein, dans le milieu animaliste, finalement. C'est pas quelque chose qui fait consensus. Hein. Mais disons que dès lors qu'un être vivant est un être sentient, donc on exclut par là les plantes, hein, est un être sentient qui a un intérêt à vivre et qui manifeste une volonté de prolonger sa vie, on doit respecter ça, en fait. Parce que cet être vivant et sa vie ne nous appartiennent pas. Et du coup, ça concerne effectivement la plupart des animaux et des autres animaux dans ce qu'on connaît actuellement de leur sentience.
La plupart des animaux ont un intérêt à vivre leur vie la plus longue et la plus heureuse possible. C'est ça qu'on veut dire hein, quand on parle de respecter les intérêts des animaux. Ça a plein de conséquences pratiques. Hein, ça veut dire arrêter de les traiter comme des ressources, comme des moyens pour nos fins. Et donc, ça a des implications, comme on disait, sur le domaine du divertissement, de l'alimentation, de la science. Il faut quand même bien voir que c'est un problème énorme dans notre société. Il y a 64 milliards d'animaux terrestres qui sont tués chaque année dans le monde, et 1000 milliards de poissons, entre 1000 et 3000 milliards, 1000 c'est l'estimation basse, hein, qui meurent de suffocation dans les filets de pêche. Donc ça mérite quand même qu'on se pose la question de est-ce que c'est bien légitime de faire ça ?
L'association PEA pour l'égalité animale a édité une brochure sur le spécisme, En finir avec le spécisme, et on peut lire « On ne peut plus caresser des chats et des chiens tout en plantant notre fourchette dans le morceau d'un autre animal pareillement sensible. » Est-ce qu'on peut caresser des chats et des chiens ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des animaux de compagnie ?
La notion de droit ne se pose pas dans le véganisme, puisque c'est un choix éthique qui est constamment reconduit, finalement. Donc... Mais après, la question des animaux de compagnie, c'est quelque chose qui, là encore, ne fait pas consensus et qui semble compliqué à envisager. Donc ça, c'est personnel. Mon point de vue étant que il est important de ne pas poursuivre un système d'exploitation et de marchandisation des animaux. Donc par exemple, tout ce qui est du domaine des animaleries est dans les faits très problématique. Après, il va de soi qu'il y a des milliers d'animaux qui sont dans des refuges et que ces animaux seraient mieux choyés dans des familles que dans des refuges. Et donc, dès lors qu'il s'agit de sauver des animaux, les animaux, entre guillemets, de compagnie, semblent pouvoir être tout à fait justifiables.
Oui, ce qu'on prône, c'est pas un apartheid des espèces. Hein. On ne dit pas que d'un côté, il doit y avoir les humains et puis de l'autre côté, les animaux qu'il faut juste laisser en paix. On envisage tout à fait qu'il puisse y avoir des collaborations harmonieuses entre humains et animaux, mais simplement, il ne faut pas que ça soit un rapport de maître à dominer et qu'on impose toute notre volonté aux animaux qu'on a comme... Enfin, on dit de compagnie. Déjà, ça sous-entend que le but de l'animal en question, c'est de tenir compagnie. Non, on vit avec un animal et puis on prend en compte son agentivité, quoi, le fait qu'il a aussi ses volontés et qu'il faut en tenir compte.
J'ai l'impression qu'on comprend donc assez vite en lisant les argumentaires antispécistes et puis en parlant avec vous. Donc c'est une démarche rationnelle, morale. C'est l'homme qui décide de passer de ce qui est à ce qui doit être, donc faire fonctionner son jugement et ne pas prendre de la nature comme une espèce d'équilibre. Qu'il faudrait laisser intact. Il y a l'idée aussi qu'il y a des injustices dans la nature qu'il faudrait rétablir en partageant les richesses, les moyens de production.
Bah, C'est-à-dire déjà l'idée de nature, on ne sait pas bien qu'est-ce que ça veut dire. Hein, alors,
Oui. Ça sert très majoritairement l'idée de nature à justifier un ordre social établi humainement. Et ça sert à justifier un certain nombre de choses et pas un certain nombre d'autres. Alors que finalement, par exemple, le viol est courant dans la nature. La nature au sens les autres espèces. Bien, maintenant, est-ce qu'on se sert de cet argument pour le justifier dans l'espèce humaine ? Non, absolument pas. C'est absolument non recevable d'un point de vue éthique. Et bien, il en va de même pour un certain nombre d'autres choses, notamment du coup la domination et l'exploitation. Et cet argument, finalement, est une façon d'empêcher la pensée. Il s'agit, par là même, en démontrant sa nécessité, cette idée que, finalement, c'est ce qui est naturellement bon, puisque la nature, c'est ce qui est c'est souvent perçu comme ce guide du bon et du juste et du nécessaire. Voilà, que ça empêche toute forme d'esprit critique dès lors qu'on appose l'adjectif naturel. Mais toutes sortes de choses ont été qualifiées de naturelles. Par exemple, on voit bien que l'argument de la nature est un des arguments fondateurs de l'argumentaire de la Manif pour tous, concernant notamment le fait que les couples homosexuels ne doivent pas ni se marier, ni avoir d'enfants.
C'est prescriptif, quoi. C'est une notion qui se présente comme descriptive, qui prétend décrire le monde, et en fait, elle est prescriptive, et elle dit comment on doit se comporter. D'où l'existence de la notion de contre-nature. Si on disait la réalité, le monde, ça aurait aucun sens de dire qu'une pratique est contre-réelle, qu'elle est contre-monde. Alors que si on peut dire que c'est contre-nature, ça veut dire que donc la nature nous dicte un ordre moral, et en fait, cet ordre moral, c'est les humains qui l'inventent, hein, bien sûr, qui choisissent qu'est-ce qu'ils veulent imiter ou pas dans la nature, enfin dans le monde, quoi, en fait. Et puis cette notion, elle sert du coup à s'opposer à l'humanité. Voilà, il y a l'humanité qui est supérieure, la nature, les animaux qui sont dedans, qui sont de l'autre côté. Et tout ça, c'est vraiment c'est au service de l'humanisme, quoi, cette idéologie de domination qui se présente comme une morale gentille, qui dit, oui, voilà, être humain, c'est être à l'écoute, c'est s'occuper des autres, c'est avoir de l'empathie pour les autres. Et en fait, c'est typique des idéologies de domination, quoi, de s'habiller sous les, avec des mots ultra positifs pour en fait justifier des dominations. Si on prend par exemple la notion de noblesse, noble, c'est un mot qui est connoté positivement. On dit, c'est bien, c'est un mot noble justement, noble, noblesse. C'est un mot qui nous vient de l'ancien régime et de la valeur positive qui était associée à la noblesse. Et ça, c'est resté. Et en fait, ça sert à opposer noble à ignoble. Hein. Donc les ignobles, les pauvres, ceux qui sont même pas de la noblesse, quoi. On pourrait penser à généreux aussi. Généreux, c'est un mot qui a l'air positif comme ça. En fait, à l'origine, ça voulait dire issu d'une haute lignée. À l'opposé, vous avez vil, vilain. Alors ça désigne les pauvres. Donc c'est connoté péjorativement. Le langage est fixé par les dominants, en fait. Et on a la même chose avec l'idée d'humain. Comme c'est nous qui construisons le langage des humains, assez logiquement, on a associé des idées ultra positives à cette notion d'humanité, alors qu'en fait, ça nous sert surtout à s'opposer par contraste à ceux qui ne sont pas humains. Donc l'humanisme, c'est vraiment une idéologie qui hiérarchise, qui sert à discriminer, qui est élitiste, qui fixe en fait une échelle des valeurs des êtres sur la base d'un critère complètement arbitraire, quoi, qui est l'espèce.
On retrouve aussi ces études sur le langage discriminant dans les luttes antiracistes, antisexistes. Est-ce que l'antispécisme, c'est l'aboutissement de toutes ces luttes ? La suite logique ?
Je ne sais pas si on peut parler d'un aboutissement de toutes ces luttes dans une seule lutte, puisqu'elles sont toutes liées, finalement. L'aboutissement de toutes ces luttes, ce serait peut-être leur union, enfin... sachant qu'elle est dans les faits difficile à réaliser, mais on peut pas en considérer une comme l'aboutissement des autres, puisque c'est le même système de domination, finalement, qui est à l'œuvre, avec souvent les mêmes critères de discrimination. Et l'antispécisme nous semble effectivement important comme approche à associer à ces autres formes de discrimination, c'est-à-dire que c'est quelque chose contre lequel, le spécisme est quelque chose contre lequel on doit lutter, au même titre qu'on doit lutter contre le racisme et qu'on doit lutter contre le sexisme.
Donc c'est plus une lutte parallèle qu'une lutte.
Bah, qui s'est créé dans la continuité quand même.
Oui.
Quand en 1970,
ouais.
Peter Singer se demande, donc c'est un philosophe hein, qui voulait réfléchir sur la notion d'égalité. Et puis il y a un étudiant qui lui dit, bon alors tu réfléchis à la question de l'égalité avec les autres races entre guillemets, entre les sexes, et qu'est-ce que tu fais de la question de l'espèce, des animaux? Alors du coup il cherche les raisons pour lesquelles on estime que les animaux peuvent être nettement distingués des humains, et puis il se rend compte que c'est pas si facile que ça de trouver les bonnes raisons, et finalement ça devient l'aspect central de son travail. Mais au départ, c'était clairement une réflexion sur l'égalité et pas sur la question animale en particulier. C'est venu après, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un impensé à ce niveau-là. Et c'est à la suite de ça qu'il écrit Animal Liberation, donc la libération animale, qui a été traduit en français, et qui est un peu un ouvrage fondateur dans la culture antispéciste.
Qu'est-ce que c'est la couleur politique de l'antispécisme?
C'est ancré à gauche, hein, ouais. Je pense qu'on peut le dire.
Parce oui.
Que... puisque ça se fonde sur un égalitarisme. Après, il oui. faudrait voir qu'est-ce qu'on met dans gauche, parce qu'aujourd'hui, gauche, ça veut tout et rien dire. Mais... En tout cas, voilà, c'est associé à une considération très forte pour l'idée d'égalité, de justice sociale, et opposé à l'idée qu'on peut être libre de faire ce qu'on veut avec notre propriété.
Oui, c'est sûr que dans le mouvement animaliste, il y a une multitude de courants politiques. Après, l'antispécisme, en tant que tel, c'est-à-dire justement cette lutte contre la discrimination sur l'espèce, est effectivement ancrée à gauche avec cette volonté dont Mathieu vient de parler d'égalité. On se rend compte que la façon de concevoir l'animalisme dans les milieux de droite et d'extrême droite n'est pas fondée sur les mêmes principes. Et donc nous sommes effectivement dans une lignée très antispéciste et égalitariste.
Dans ce moment-là de campagne présidentielle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait capable de porter cette lutte pour 2017, vous pensez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle d'antispécisme?
Dans les candidats à la présidentielle?
Oui.
Alors, il y a Jean-Luc Mélenchon qui récemment s'est découvert une passion pour le végétarisme.
Oui, qu'on a
qui,
vu dans le...
Voilà, qui a effectivement donné une interview... Ouais. Où il montrait qu'il mangeait une salade de quinoa avec des crevettes.
Ah mon Dieu.
Bon, alors c'est assez frustrant de le voir parler de ça et en prenant pour exemple une salade avec des crevettes. Bon, mais après, il y a quand même un message qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que il va falloir réduire notre consommation de protéines carnées et privilégier les protéines végétales. Maintenant, c'est un discours qui malheureusement met pas énormément l'accent sur les intérêts des animaux à vivre leur vie et qui est plus axé sur la dimension environnementale du problème. Alors bon, c'est intéressant tout de même. Après, chez les écologistes, vous avez un certain nombre de personnes qui réfléchissent aussi à la question animale. L'idée de bien-être animal, c'est ultra répandu chez les Verts. Après, il faut voir ce qu'ils en font. Vous avez des candidats à la primaire écologiste, je crois Yannick Jadot, par exemple, il dit bien-être animal et puis il ne développe pas tellement ce que ça veut dire, il me semble. Donc... considérer la question animale à sa juste valeur aujourd'hui en mettant l'accent sur les intérêts des animaux à vivre leur vie et pas comme simplement membre d'une espèce à protéger pour empêcher sa disparition, il me semble que c'est pas encore une démarche présente parmi les candidats annoncés à la présidentielle.
Oui, parce qu'on reste dans une société du coup qui est spéciste et qui a toujours du mal à concevoir que les animaux ne sont pas secondaires, en fait. Et du coup, il y a cette forme de récupération, parce que c'est un sujet qui est d'actualité, hein, cette forme de récupération politique, mais elle n'est pas forcément très approfondie. Mais ça va venir. Fin...
Oui, c'est récent, voilà. Donc c'est normal aussi. Hein, le spécisme est tellement omniprésent, on grandit avec. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, est sincère quand il dit qu'il vient de découvrir cette cause et qu'il trouve ça intéressant. C'est forcément, il a de plus en plus de militants autour de lui qui disent que c'est une question importante, qui veulent créer une condition, d'ailleurs qu'ils l'ont créée, une commission qui s'appelle Conditions Animales au Parti de Gauche. Même le FN s'y est mis, hein, même eux, ils se sont créés une commission Conditions Animales, bon, où ils parlent surtout des chiens et des chats, mais à Europe Écologie aussi, bien sûr, ça s'est créé. Mais voilà... faut dire qu'on revient de loin quand même. On est dans un monde où, quand un couteau est utilisé contre une vache, on dit que c'est un outil. Et puis quand on l'utilise contre un humain, on dit que c'est une arme. On dit qu'on tue un chaton, on dit qu'on détruit des rats. C'est tellement imprégné dans notre culture que c'est difficile de s'en détacher.
Donc, ouais, comme tu l'as dit, Adrienne, donc c'est des pratiques et des concepts qui sont actuels et qui commencent à être médiatisés, mais pas forcément bien expliqués. Je pense surtout à des personnages télévisés comme Aymeric Caron, On n'est pas couché sur France 2, qui est un peu devenu la personne qui incarne maintenant le vegan à la télé. Est-ce que vous pensez que ça aide à la cause ou au contraire ça contribue à extrémiser les propos et ça les fait devenir comme la lubie d'un homme aux cheveux longs et qui parle de lapin sur France 2?
Des échos que j'en ai eu sur Aymeric Caron, c'était plutôt positif finalement. Parce que même si dans les faits, son discours n'est pas toujours absolument cohérent sur tous les points, ni absolument au fait d'une certaine forme de réflexion, il contribue à populariser des concepts qui sont quand même fondamentaux. Et finalement, on ne peut pas faire abstraction des médias. On ne peut pas faire abstraction du fait que ce message, il faut le faire passer, par tous les moyens qui soient à notre disposition. Et que, évidemment, il aura des détracteurs, d'autant plus en France où la consommation de produits animaux est profondément ancrée dans la culture. Et aussi quelque chose qui est considéré comme important au niveau de l'économie. Mais il est important que des gens et des personnalités médiatiques relayent ça. Et il a quand même écrit un ouvrage intitulé « Antispéciste ». Et dès lors qu'on parle d'antispécisme, que ce concept parvient dans les mentalités, qu'il devienne entendable, qu'il devienne réappropriable, eh bien, c'est quand même un grand pas. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Vraiment, c'était important.
C'est sûr qu'il a bien contribué à la diffusion de la notion de spécisme, et ça, c'est quand même une belle avancée. Depuis qu'il en parle à la télé, ça devient un sujet qui prend de l'ampleur. Après, moi, je regrette quand même que, dans sa définition de l'antispécisme, il considère qu'il n'y a pas du tout d'incompatibilité avec l'écologie telle qu'elle se pense aujourd'hui, l'idée de nature, alors que l'écologie, ça consiste quand même à défendre l'équilibre des écosystèmes, à défendre les animaux en tant qu'ils font partie d'une espèce à protéger. Et du coup, jusqu'à récemment encore, l'écologie s'intéressait assez peu aux animaux d'élevage, si ce n'est sous l'angle du bien-être, quoi, parce que finalement, ils ne sont pas en danger de disparition. Alors que vous prenez des espèces protégées, rares, alors là, c'est terrible, parce que finalement, c'est un peu le patrimoine des humains qui va se retrouver appauvri, quoi, si ces espèces-là s'éteignent. Donc je pense que c'est spéciste comme approche, en fait, hein, l'approche... écologiste traditionnel. Et malheureusement, Aymeric Caron refuse de se distinguer de ça. Il dit que ça peut être une nouvelle écologie, une écologie essentielle. En fait, il reste très empreint d'humanisme, hein, Aymeric Caron. C'est pas quelque chose qu'il accepte de contester, alors que l'humanisme, c'est quand même un découpage ultra hiérarchisé qui fait trôner l'humanité au-dessus de la nature, qui permet de dominer tous les animaux qui la composent. Et c'est un mécanisme commun à l'esclavage, au sexisme, à l'agisme, où à chaque fois, on a une échelle de valeur où on place les blancs au-dessus des noirs, les hommes au-dessus des femmes, les adultes au-dessus des enfants. Les premiers, c'est ceux qui ont la liberté, la raison, la maîtrise de soi. Puis les autres, c'est ceux qui sont déraisonnables, qui sont mus par leurs instincts, qui sont immatures pour les enfants, qui n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes. Et donc, qui doivent être gouvernés par ceux qui, eux, par contre, sont nés pour avoir la maîtrise, quoi.
Oui, pour l'écologie, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de courants écologistes qui sont toujours dans cette approche patrimonialisante, finalement, des autres animaux. Après, je pense que la question animale, actuellement, interroge aussi l'écologie et contribue à la redéfinir. Hein. Je ne te rejoins pas, Mathaï, sur une seule forme d'écologie qu'on puisse condamner comme ça, mais effectivement, il faut interroger tout ce qui est du domaine de l'idée de nature et surtout de l'idéalisation de la nature, puisque c'est ça finalement, cette idée que cet ordre naturel est, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, nécessairement bon, et aussi qu'il est nécessairement fonctionnel, alors qu'en fait on se rend compte que là encore c'est une lecture a posteriori qui est une lecture humaine, dans une réalité qui est en constante mutation, et que décider d'un ordre dans cette réalité en constante mutation, c'est une façon d'en établir des lois prédictives, c'est une façon de finalement se rassurer soi en tant qu'espèce sur un certain type de fonctionnement, alors que ce monde nous échappe. Ce monde nous échappe fondamentalement. On n'a pas la maîtrise, on n'a pas une connaissance absolue du vivant. Et à partir de là, il est difficile de considérer qu'on puisse se l'approprier et qu'on puisse en tirer des lois, quelles qu'elles soient.
On est toujours en train de faire des études pour découvrir des nouvelles espèces qui seraient sentientes.
Oui, toutes les études montrent que les espèces que l'on connaît déjà sont plus sentientes qu'on ne le pensait, tout simplement parce que la façon dont on les évaluait jusque-là était très majoritairement calquée sur des critères humains de reconnaissance de l'intelligence, par exemple, et que ce n'était pas pertinent dans l'approche de ces espèces qui n'ont pas le même environnement, qui n'ont pas les mêmes mécanismes cognitifs, mais qui ont leur propre approche du monde qui est tout à fait valable et respectable également.
Quelle est l'origine de ce mot, en fait ? Pourquoi on a inventé un nouveau mot pour parler de la conscience des animaux ?
La sentience, c'est la capacité à éprouver des sensations. On préférait dire ça que sensible, parce que sensible, c'est aussi connoté chez les humains qui pleurent facilement, qui s'émeut facilement. Alors,
oui, et puis,
on s'émancipe un peu de ça en disant sentient.
Oui, et puis il y a cette dimension fondamentale aussi dans la sentience, qui est celle de vie subjective. Et c'est ça qui est très important aussi de diffuser, c'est le fait que les autres animaux ont une vie subjective. Dans ce sens que la majorité des études montrent actuellement que la plupart des animaux ont une conscience d'eux-mêmes. Et que donc ils incarnent cette conscience dans leur rapport au monde et qu'ils incarnent une vie subjective qui est aussi associée au fait d'être doté de sensations, qui est aussi le fait d'avoir une vie émotionnelle. Et tout ça, toute cette complexité psychique, finalement, des autres animaux, elle se retrouve beaucoup plus dans le concept de sentience que dans la notion de sensibilité, qui sert juste... voilà. Et du coup, c'est pour ça que ce mot, qui vient de l'anglais, a été réapproprié pour en faire un concept fondateur en termes de lutte animaliste.
D'accord. J'avais juste une dernière question, du coup. J'imagine, assez facilement comment comprendre intellectuellement le fait de ne pas discriminer les espèces. Par contre, est-ce que vous-même, après plusieurs années, j'imagine, d'études sur le sujet, est-ce que vous avez eu l'intuition, enfin le sentiment profond, en tout cas, que l'homme est un animal comme les autres ? Est-ce que vous le ressentez ?
C'est une question compliquée. En fait, non, mais... C'est-à-dire qu'il n'y a aucun animal qui est un animal comme les autres. Et c'est ça, finalement, qu'on a tendance à oublier, parce qu'on a toujours cette distinction bipartite entre, d'un côté, les humains, et d'autre côté, les animaux. Et animaux sert majoritairement, bien qu'on soit nous-mêmes des animaux, à désigner tout ce qui est du domaine des autres. Et ensuite, on admet de faire une distinction d'espèces. On oublie totalement que les animaux sont des individus, et que au sein des espèces, c'est une multitude d'individus qui ne sont pas représentatifs d'une espèce, mais représentatifs d'eux-mêmes. Et finalement, chacune de ces espèces est spécifique, et chacun des individus au sein de ces espèces est spécifique également. Donc non, l'humain n'est pas un animal comme les autres, mais aucun animal n'est un animal comme les autres.
Oui, puis aussi, moi je pense par exemple avoir plus de points communs avec un chimpanzé en pleine forme, en pleine santé, qu'avec un humain nourrisson ou comateux, en fait. Donc de toute façon, ce critère de l'espèce, cette frontière d'humanité me paraît pas très pertinente pour penser les similitudes ou les différences entre individus. Puis après, nous croyons en l'idée d'égalité animale. On pense que les animaux sont égaux sur le plan du droit à voir leurs intérêts considérés. Alors, c'est pas forcément les mêmes intérêts. Hein. On dit pas qu'il faut laisser le droit de vote aux poules, mais on dit qu'il faut avoir un comportement adapté aux impératifs de chacun. Si vous prenez le droit à l'avortement, on ne l'accorde pas aux hommes ou alors aux hommes trans, mais simplement parce que effectivement, les hommes cis n'ont pas d'intérêt à ce qu'on leur accorde le droit à avorter. Bon, de la même façon, un éléphant, on ne va pas lui donner le droit d'aller à l'université. On va plutôt se concentrer sur son droit à la vie, à ne pas être torturé. Et puis après, on peut penser des choses un peu plus positive. Il y a des choses intéressantes sur ce sujet dans Zoopolis, qui essaye d'envisager quelles peuvent être des cohabitations avec les autres animaux qui dépassent simplement le fait de ne pas tuer, ne pas torturer.
D'accord, mais ça reste quelque chose qui est du domaine de la raison et moins du ressenti. Est-ce qu'on peut être persuadé être antispéciste plutôt que convaincu?
C'est vrai que l'antispécisme se fonde quand même sur des arguments rationnels et le rejet de l'approche émotionnelle pour considérer la question animale. On n'est pas là parce qu'on aime les animaux. Enfin, j'ai pas très envie de dire que j'aime les animaux. Enfin, je peux me laisser attendrir par certains animaux, mais j'aime pas les animaux en général. Ce serait faux de dire que je suis attendri par un tout petit poisson ou par un insecte. Mais la réflexion morale, éthique, me fait dire que il faut abolir le statut de propriété des animaux, qu'il faudrait parler à l'école du spécisme, faire de la prévention contre le spécisme, une éducation à la bienveillance vis-à-vis des animaux, qu'il faudrait arrêter d'utiliser les souris comme du matériel biologique, même si elles ne sont pas forcément mignonnes, ou les rats. Qu'il faudrait de manière générale prendre en compte les intérêts des animaux à jouir de leur vie dans un milieu propice. On pourrait par exemple mettre en place un procureur qui serait chargé de repérer les cas où les intérêts des animaux sont bafoués et puis qui porterait leur voix en justice, par exemple.
Oui, et de mon côté, c'est aussi partie d'une démarche très rationnelle, en fait, cette volonté de justice, et où j'étais finalement assez loin des autres animaux, puisque dans un milieu urbain et en ne fréquentant pas personnellement d'animaux au quotidien. Et c'est justement en devenant, en approfondissant ma réflexion antispéciste, en approfondissant mes connaissances en termes d'éthologie et de sentience animale, que j'ai appris à les voir, en fait. C'est-à-dire à les voir dans le fait que ce sont des individus, dans le fait qu'ils ont une subjectivité, dans le fait qu'ils ont, à un moment donné, ils sont dans un état émotionnel qui leur est propre, et que, par exemple, un animal avec lequel on joue, un animal que l'on caresse, un animal qui est dans un environnement sécurisant, est un animal heureux, alors que, de la même façon, les animaux que l'on torture vont être effectivement en grave détresse. Et la plupart des animaux actuellement, la grande majorité que l'on ne voit pas et qui sont dans les élevages, ou qui sont dans les cirques, ou dans les zoos, sont en grande détresse. Et du coup, moi, c'est partir d'une démarche éthique et réflexive qui m'a finalement ouvert d'un point de vue également de la sensibilité aux autres animaux, qui fait que finalement, en étant d'abord convaincu par l'antispécisme, j'en suis maintenant persuadée. Mais je pense que c'est en étant au contact des autres animaux qu'on peut percevoir ça. Et que pour la majorité de notre humanité occidentale, c'est difficile puisqu'on n'est plus au contact des autres animaux. Ou alors juste de certains.
Merci beaucoup pour cette conclusion. C'était l'association Sentience. Est-ce que vous avez des événements durant la semaine que vous voudriez annoncer?
Ah oui, alors la semaine qui vient, nous organisons les journées découvertes des alimentations végétariennes et végétaliennes pour montrer aux gens que c'est possible. Et du coup, donc à partir du mardi 18, nous avons une exposition sur le campus de Bron, en face de la MDE, sur pourquoi végétaliser son alimentation. Nous avons le mercredi 19 à 18h30 une conférence là encore sur les alimentations végétariennes et végétaliennes avec enjeux, santé et perspectives. Et le jeudi 20 octobre à 18h30, encore une fois, nous organisons un court atelier de cuisine végétale. Donc tout est en lien, tout est accessible sur notre site internet et notre page Facebook. Il suffit de s'inscrire pour le court atelier, et sinon tout est libre et d'entrée gratuite. Donc vous êtes bienvenus.
Et puis peut-être pour les auditrices et auditeurs qui ne pourraient pas venir à nos prochains événements, c'est aussi possible de consulter les informations qu'on a mises sur notre site internet. Je donne peut-être l'adresse.
Oui, allez-y.
asso-sentience.net, donc asso A2SO-sentience, c'est SENTIENCE.net. Puis il y a plein d'autres sites où on peut trouver des choses intéressantes. L214, par exemple, a fait Vegan Pratique, qui explique bien comment on peut se mettre à boycotter les produits animaux.
Ouais, puis L214 fait aussi une émission sur Radio Brume pour les podcasts.
Puis après, il y a les cahiers antispécistes aussi. Pour toute la réflexion éthique qu'on a développée là, il faut voir surtout le site des cahiers antispécistes. Il y a le blog de Frédéric Côté-Boudreau qui est très bon aussi sur comment aller vers un monde sans exploitation animale, quelles seraient les conséquences économiques par exemple, que deviendraient les élevages. Enfin voilà, il a un peu réfléchi à ces questions. Donc Frédéric Côté-Boudreau, CÔTÉBOUDREAU.com, c'est la rubrique vers un monde vegan. Voilà, bah déjà je pense qu'avec ces quelques références, ça donne de la matière.
Bon, merci beaucoup d'être venu dans le studio.
Et bien merci à vous.
Et voilà, et bonne chance pour les journées qui vont suivre.
Merci beaucoup.